VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Au micro, Camille Grosdidier et Michel Joseph, bonjour. Au sommaire, en ce mardi 5 mai 2015.
Au Burundi, la contestation contre la candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat continue.
Nous avons découvert que même à l'intérieur du pays, comme en province de Mwaro, comme ici à côté de Bujumbura, il y a Ijenda, il y a eu des manifestants, la route était bloquée comme à Bujumbura.
Le militant en faveur des droits humains, Pierre Claver Mbonimpa, reviendra sur les manifestations de lundi à Bujumbura.
Ouverture d'un forum de réconciliation en Centrafrique.
Échauffouré dans les rues de Cotonou, des Béninois se mobilisent pour empêcher l'interpellation du député Candide Azanaï.
Si Yaïboni cherche Azanaï là, il n'a qu'à savoir qu'il a cherché tous les bandits. Parce que lui-même avait dit Azanaï est un bandit du Djonké. Donc nous allons soutenir Azanaï. Que qu'en soit ce que va se passer, on est prêt pour mourir Azanaï.
Notre correspondant Peggy Ludovic Dagba nous en dira plus.
Une soixantaine d'Européens toujours portés manquants au Népal.
Et le président Barack Obama dénonce l'inégalité des chances dont sont victimes, selon lui, nombre de Noirs et Hispaniques.
Mais tout d'abord, le journal. En Centrafrique, le Forum de réconciliation nationale de Bangui, qui s'est ouvert lundi, n'a pas vu la participation du KNK, le parti de l'ancien président François Bozizé. Selon le secrétaire général de ce parti, Bertin Béa, ce forum, censé être inclusif, aurait écarté en fait les principaux acteurs de la crise centrafricaine, à savoir François Bozizé et Michel Djotodia.
C'est pourquoi le KNK a pris la décision de boycotter ces assises pour ne pas cautionner un simulacre de discussion entre les centrafricains. Nous l'écoutons au micro de Félix Yepassis Zembrou.
Mais nous pensons que le début de la transition aurait pu créer les conditions d'une véritable réconciliation en amont. Mais nous avons eu le sentiment que ces autorités de transition se sont comportées exactement comme s'ils avaient remporté des élections et qu'ils traitaient les autres comme des moins que rien. Et donc, devant cette situation, ça veut dire qu'ils n'ont pas eu une position d'arbitre dans ce qui se passait. Parce que Mme Cheta de transition a été élue pour, n'est-ce pas, conduire le pays vers la réconciliation et de nouvelles élections. C'est ce qui est contenu dans la feuille de route, n'est-ce pas, qui lui a permis d'être élue. Aujourd'hui, cette feuille de route n'est plus respectée et nous pensons que la position des autorités est une position partiale, exclusive, et c'est un outil qui explique notre absence à la réunion du forum de Bangui.
Bertin Béa, secrétaire général du KNK.
Quelques 580 délégués et des représentants des pays voisins, de l'Union africaine, de la France et des Nations unies participent à cette réunion qui doit s'achever le 11 mai. Parmi les thèmes qui seront abordés, la paix, la sécurité, la justice et la réconciliation, le développement économique et social ainsi que la gouvernance. Et il s'agit notamment de préparer les élections présidentielles et législatives.
Bilan des manifestations lundi dans la banlieue de Bujumbura au Burundi. La police a tué par balle 3 manifestants qui protestaient contre la candidature du chef de l'État, Pierre Nkurunziza, à un troisième mandat. La Croix-Rouge burundaise a confirmé ces décès. Des dizaines de personnes ont également été blessées lorsque les forces de l'ordre ont tiré à balles réelles.
Au moins 12 personnes ont été tuées lors des manifestations contre la candidature de M. Nkurunziza, qui, selon les critiques, est contraire à la Constitution, ce que le chef de l'État burundais dément. À noter que le chef de la diplomatie américaine John Kerry estime que la candidature de M. Nkurunziza est contraire à la constitution burundaise. Et par ailleurs, le gouvernement rwandais s'est déclaré lundi très préoccupé par la détérioration de la situation au Burundi.
Par ailleurs, le secrétaire d'État américain a annoncé une nouvelle aide à l'Afrique lors d'un point de presse à Nairobi au Kenya. John Kerry a précisé que Washington offrira 45 millions de dollars au HCR pour l'aide à venir pour l'aider à venir en aide à 600 000 réfugiés installés au Kenya. Et il a fait l'éloge de l'administration Kenyatta pour avoir accueilli ces déplacés.
En Guinée, une vingtaine de personnes ont été blessées à Conakry lors d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Tel est le bilan annoncé par l'opposition qui insiste sur une révision du calendrier électoral. Le point avec Eddie Isango.
Policiers et gendarmes étaient déployés en masse à Conakry et sa banlieue. Tôt le matin, la résidence des Sélou d'Alain Diallo, chef des files de l'opposition, était bouclée par un cordon de police. À Koloma, des manifestants ont brûlé des pneus et jeté des pierres sur les forces de l'ordre qui ont fait usage des gaz lacrymogènes. À Kaloum, les quartiers d'affaires, des femmes ont tenté une marche qui a été vite dispersée de manière musclée et une dizaine d'entre elles ont été arrêtées. Et selon Mamadou Mouktar Diallo, porte-parole adjoint de l'opposition, il y a eu 26 blessés, dont une dizaine par balle. Pour sa part, le gouvernement a dénombré 2 civils blessés dans des accidents de la circulation causés par les protestataires. L'opposition guinéenne exige la révision du calendrier qui renvoie les élections locales après la présidentielle d'octobre, ce que refuse catégoriquement le président Alpha Condé.
Le secrétaire d'État américain John Kerry a annoncé hier le soutien de Washington à la création d'un tribunal pour juger les auteurs de crimes au Soudan du Sud. Morgane Guiriec.
Au cours de sa visite officielle au Kenya, John Kerry a dit soutenir la création d'un mécanisme judiciaire crédible, impartial et efficace, tel un tribunal hybride, pour que les responsables des violences puissent répondre de leurs crimes. Pour démarrer la mise en place d'une telle instance, Washington s'engage à donner 5 millions de dollars. Human Rights Watch avait proposé en décembre 2014 la création d'un tribunal hybride, comprenant des juges du Soudan du Sud et des juges internationaux. L'Union africaine aussi avait plaidé en faveur de la poursuite des responsables des crimes. Le conflit sud-soudanais a éclaté en décembre 2013 entre le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar. Les combats sont souvent accompagnés de massacres et atrocités contre les civils. Ce conflit a déjà fait des dizaines de milliers de morts dans le plus jeune pays du monde.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a reçu lundi les représentants de la communauté juive éthiopienne au lendemain des manifestations les plus violentes qu'elle ait jamais tenues contre le racisme de la police et les discriminations sociales. Les précisions de Claire Morin-Gibourg.
L'audience qui visait à calmer la colère de cette communauté a duré plus de 3 heures. Monsieur Netanyahou, selon ses services, a insisté sur la nécessité d'être unis contre le phénomène du racisme, de le dénoncer et de l'éradiquer. Il a aussi chargé une commission ministérielle de s'attaquer aux problèmes d'intégration rencontrés par les Israéliens d'origine éthiopienne dans le domaine de l'éducation, du logement et de l'emploi. Plus d'une soixantaine de policiers et manifestants ont été blessés dimanche soir à Tel Aviv, selon un nouveau bilan policier, au cours d'une manifestation qui a dégénéré en émeute et provoqué un débat national sur le racisme. 3 jours auparavant, un rassemblement à Jérusalem avait également dégénéré près de la résidence du Premier ministre. À l'origine, une vidéo montrant 2 policiers en train de frapper, sans raison apparente, il y a une semaine près de Tel Aviv, un soldat d'origine éthiopienne en uniforme. Depuis les 2 ponts aériens organisés en 1984 et 1991 pour l'immigration vers Israël de 80 000 Éthiopiens, leur intégration dans la société israélienne n'a pas été des plus aisées.
Au Népal, le bilan du séisme du 25 avril est de presque 7 400 morts, selon les autorités. Une centaine de personnes ont été retrouvées mortes près d'un sentier de montagne populaire où ils ont été ensevelis par une avalanche. On signale pour l'instant 14 000 blessés à travers le pays. Selon l'Union européenne, une soixantaine de ses ressortissants sont toujours portés manquants.
Le président Barack Obama a déclaré lundi que de nombreux jeunes noirs et hispaniques sont défavorisés dès la naissance et font l'objet de traitements inégaux de la part de la police. Dans un discours à New York, M. Obama a noté que ces jeunes sont interpellés et jetés par terre par la police sans aucune raison. Ces mauvais traitements conduisent à la violence dans des villes comme Baltimore, dans le Maryland ou Ferguson, dans le Missouri, a-t-il poursuivi.
Au terme d'une rencontre avec des jeunes gens à New York, M. Obama a déclaré à la presse qu'ils ont beaucoup à dire et que leur message est fort.
On enchaîne avec la Minute Éco, présentation Félix Yepassis Zembrou. Bonjour.
Facebook a annoncé lundi que son application mobile internet.org, qui permet d'avoir gratuitement un accès Internet de base dans des régions où l'accès à la toile est peu développé, allait s'ouvrir à davantage de services en ligne conçus par des tiers. L'application mobile avait été lancée pour la première fois l'été dernier en Zambie, puis a été étendue à d'autres pays. Elle est proposée en partenariat avec des opérateurs télécoms qui ne facturent pas les données utilisées et donnent accès à des services en ligne jugés de base. Le Burkina Faso, dont le sol est riche en or, investi dans le secteur aurifère depuis 2009. Une délégation gouvernementale se rend au Canada cette année du 9 au 15 mai à Montréal pour un grand forum qui regroupe les professionnels du secteur minier.
L'idée pour nous, c'est de renforcer les capacités donc, de nos entreprises afin qu'elles soient à mesure de fournir quelques biens ou des services donc, à des entreprises minières installées au Burkina Faso.
Félix Fanon, directeur des services aux entreprises et de la coopération à la Chambre du commerce et de l'industrie du Burkina Faso. Le gouvernement camerounais a prescrit la célérité dans le traitement des dossiers à tous les acteurs de la plateforme portuaire de Douala afin de décongestionner le port de ce poumon de l'économie.
Les sports, présentation Timothée Donogmaï. Bonjour Timothée.
Bonjour Camille.
On commence avec le football africain. Tirage au sort aujourd'hui de la phase de groupe de la Ligue des champions Orange 2015.
Tout est fin prêt au siège de la CAF au Caire où se fera ce tirage avec des chapeaux constitués en fonction du classement des clubs engagés sur la base de leurs résultats lors des 5 dernières éditions des compétitions africaines interclubs. Le premier chapeau comprend le SC Tif d'Algérie, tenant du titre, et le tout-puissant Mazembe de RDC, demi-finaliste de la dernière édition et club le mieux classé des 8 candidats au trophée cette année. Le deuxième chapeau est celui des clubs soudanais d'Al Hilal et d'El Merrek. Enfin, le pot numéro 3 rassemble les clubs algériens d'Usma et d'Elma, ainsi que les Égyptiens de Smouha et les Marocains de Maghreb Tétouan.
Maghreb Tétouan, qui est à l'origine du limogeage de l'entraîneur du club égyptien d'Al Ahly.
Et oui, l'Espagnol Juan Carlos Garrido fait les frais de l'élimination d'Al Ahly en huitième de finale de la Ligue des champions d'Afrique dimanche par le club marocain. Vainqueur à 19 reprises de cette compétition, Al Ahly va maintenant tenter de se racheter en Coupe de la CAF où il est reversé.
Football européen à présent avec les demi-finales allées de la Ligue des champions.
La Juventus Turin et le Real Madrid, tenant du titre, entament les hostilités ce soir à Turin, suivi demain du choc à Barcelone entre Barcelone et le Bayern Munich. Du beau spectacle en perspective avec les clubs habitués de cette phase de la compétition, en dehors de Turin, de retour après 12 ans d'absence.
Le réchauffement des relations entre Cuba et les États-Unis se poursuit et cette fois-ci, c'est dans le domaine sportif.
En effet, une équipe cubaine de lutte arrivera le 21 mai à New York pour affronter des lutteurs américains en match d'exhibition à Times Square. Au programme, la lutte libre et la lutte gréco-romaine, hommes et dames. Et pour terminer, Camille, la suite des demi-finales de conférence en basketball professionnel nord-américain, la NBA.
En finale du championnat nord-américain de basketball, la NBA, les Bulls de Chicago ont battu les Cavaliers de Cleveland 99-92 et les Rockets de Houston se sont inclinés devant les Clippers de Los Angeles sur le score de 117-101. Et puis c'est officiel, le meneur de jeu des Warriors de Golden State, Stephen Curry, a bien été désigné joueur par excellence de la NBA. L'annonce a eu lieu lundi. Curry devrait recevoir le prix sur le terrain avant le deuxième match de la série demi-finale de l'association Ouest entre les Warriors et les Grizzlies de Memphis ce mardi. James Harden, qui a porté Houston cette saison, n'a récolté finalement que 25 premières places contre 100 pour Stephen Curry. Il termine donc deuxième.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Ici Washington, Camille Grodidi avec vous pour présenter les dossiers du jour. Le Burundi a connu une journée très difficile lundi lorsque la police a tiré à balles réelles sur des manifestants faisant des morts. Pour faire le point de la situation, Idriss Fall a joint le militant en faveur des droits humains, Pierre Claver Mbonimpa.
Beaucoup de familles ont fait fuir leurs enfants, leurs femmes. Et jusqu'à présent, je sais 5 personnes qui ont été tuées. Et il y a plus de 46 personnes qui ont été blessées. Mais malheureusement, il y a aussi des policiers qui ont été blessés à cause des grenades. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais aussi, nous avons découvert que même à l'intérieur du pays, comme en province de Mwaro, comme ici à côté de Bujumbura, il y a Ijenda, il y a eu des manifestants, la route était bloquée comme à Bujumbura, pour dire que l'ampleur commence à prendre tout le pays, et petit à petit, ça se rend dans toutes les provinces.
Et vous allez continuer à manifester contre le troisième mandat de Pierre Nkurunziza?
Écoutez, une fois que la population est décidée, ce n'est pas moi qui décide, c'est la population. Vous avez entendu qu'ils disent aux journalistes qu'ils vont marcher jusqu'au départ de Pierre Nkurunziza. Et je vois qu'ils sont déterminés, même s'il y a des morts, et nous dirons qu'il y a toujours des victimes.
Et vous parlez des journalistes, les trois principales radios sont toujours limitées, la RPA est toujours fermée?
Non, toutes les radios, la RPA est complètement fermée. La radio Isanganiro et Bonesha ne mettent pas à l'intérieur du pays. C'est très malheureux. C'est malheureux parce que la population burundaise aujourd'hui est privée de l'information.
Et vous-même, vous avez été interpellé la semaine dernière, non? Et vous n'avez pas peur?
Bon, moi j'ai été interpellé même dans un service de renseignement là où ça fait peur. Mais moi je n'ai pas eu peur, même aujourd'hui j'ai été visiter les prisonniers qui se trouvent dans les corps de police. Et j'ai été là, le directeur adjoint de la police nationale qui s'appelle Godefroy. Il m'a intimidé me disant qu'il ne veut pas me voir pour visiter les détenus, mais il se trompe, c'est assez mon rôle de défendre les droits des prisonniers. Je dois observer ce qui se passe, sachant que je fais courir un risque, puisque si vous êtes déterminé en tant que défenseur des droits de l'homme, c'est comme un journaliste, et je peux mourir demain après-demain, mais il n'y a pas de problème, pourvu que l'idée que je poursuis, pourvu que je défends les droits de la personne humaine.
Pierre Claver Mbonimpa, président de l'Association pour la protection des droits humains et des personnes détenues, est lauréat en 2007 du prix Martin Hénals pour les défenseurs des droits humains. Il était joint au Burundi.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Grodidi avec vous depuis Washington. Échauffouré dans les rues de Cotonou ce lundi, des manifestants se sont mobilisés pour empêcher l'interpellation du député Candide Azanaï qui est recherché par le gouvernement pour insulte au chef de l'État. La police a eu recours à des gaz lacrymogènes pour disperser les protestataires. Mais en fin de compte, quelles sont les origines de toute cette affaire? Eh bien, la réponse dans ce reportage de notre correspondant Peggy Ludovic Dagba.
S'il y a un
Boni cherche à Zanaïla. Il n'a qu'à savoir qu'il a cherché tous les bandits. Parce que lui-même avait dit à Zanaïla est un bandit du Djonké. Donc nous allons soutenir à Zanaï. Que qu'en soit ce que va se passer, on est prêt pour mourir à Zanaï.
Nous le soutenons jusqu'à la mort. On peut tirer sur moi. Moi, je suis prêt à mourir pour lui. C'est tout.
Zanaï n'est pas dans Ivo.
Pourquoi il n'est pas dans Ivo? Si lui, il est assemblé, nous, on se lève bon. Zanaï n'est pas même petit dans notre pays. Il a un grand quelqu'un. C'est à cause de ça qu'on a trop de supporter.
C'est là un échantillon exhaustif de ceux qui ont constitué le bouclier humain autour du député Candide Azanaï, recherché pour ses propos jugés inconcevables envers le chef de l'État lors de la campagne électorale. Alassane Tigri, secrétaire général de la présidence de la République.
Le président de la République, en tant que citoyen, a porté plainte devant la justice contre les propos inacceptables pour lui, mais aussi et surtout pour l'image et le crédit de la démocratie béninoise.
En réponse à la plainte du président de la République, le procureur de la République a instruit la gendarmerie nationale pour délivrer une convocation aux mises en cause. Mais la délivrance de cette convocation n'a pas respecté les règles en la matière, selon Guy Mitokwe, secrétaire général du parti Restaurer l'espoir du député Candide Azanaï.
Nous, on ne parle pas d'interpellation, nous parlons de kidnapping. C'est une tentative de kidnapping parce que aucune norme en la matière n'a été respectée. C'est un parlementaire en exercice. On ne peut pas vouloir faire infraction chez lui comme nous l'avons constaté ce matin. Le semblant de mandat d'arrêt qu'ils ont produit n'avait pas de motif.
Pour le juriste et politologue Gilles Badé, un député en exercice ne peut être interpellé de la sorte.
Le député est protégé par l'inviolabilité. Cela veut dire que pendant les sessions, il ne peut être exceptionnellement arrêté qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale. En dehors de toute session, il ne peut être exceptionnellement arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale. Même dans les cas de flagrant délit, l'Assemblée nationale a toujours la possibilité de demander la suspension de toute arrestation.
Un accord est intervenu entre les avocats de Candide Azanaï et ceux du président de la République pour que les députés se présentent au procureur de la République dans l'après-midi de ce mardi. Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, eh bien, des cadres du parti fondé par l'ex-président Laurent Gbagbo ont été interpellés lundi après leur participation la semaine dernière à une réunion de frondeurs ayant désigné l'ex-chef de l'État ivoirien président de cette formation politique traversée par une crise. Les interpellés sont Hubert Oulai, Sébastien Dano Djedje et Justin Koua. Tous les cadres arrêtés font partie de la faction des frondeurs qui ont organisé ce week-end à Mama, village de Laurent Gbagbo, un congrès extraordinaire censé déboulonner la direction du parti conduite par Pascal Affine-Guessant. Sur les arrestations et leurs enjeux, on écoute Koné Boubacar, secrétaire général issu du congrès de Mama.
Au moment où je vous parle, il y a 3 interpellations et sur les autres cadres pèsent des menaces d'arrestation ou d'enlèvement. Parmi les 3 cadres qui ont été arrêtés, 2 ont été localisés à la préfecture de police d'Abidjan et 1 est porté disparu, en l'occurrence le professeur Hubert Oulai, président de notre comité de contrôle.
Qu'est-ce qu'il leur a exactement reproché?
Mais rien du tout. Nous sommes habitués à ce que les gens soient arrêtés sans qu'on leur reproche quoi que ce soit.
Vous êtes opposé à la direction reconnue officiellement dans votre parti. Pensez-vous que cela est à l'origine des arrestations de vos camarades militants?
Oui, il y avait une crise à l'intérieur du FPI. Mais au moment où je vous parle, l'ancien président du FPI ne fait plus partie du FPI. Puisqu'on a été exclu par le dernier congrès extraordinaire. Il n'est plus militaire du FPI. Il ne peut donc, par conséquent, pas en être le président. Voilà. Il ne fait plus partie du FPI. Oui, nous sommes un peu surpris et nous trouvons curieux qu'un candidat à la présidentielle, en l'occurrence M. Ouattara, déploie autant d'énergie et autant de moyens pour soutenir son adversaire, en l'occurrence M. Afi, qui s'est déclaré également candidat du nouveau parti qu'il est en train de créer.
M. Koné Boubacar, l'aile que vous dirigez n'est pas reconnue par la justice ivoirienne. Ne pensez-vous pas que le malheur de vos camarades militants vient de là?
Mais non, même ça, ce n'est pas juste. La décision de justice ne nous a jamais été signifiée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore un papier qui nous informe de la décision que la justice a prise. En d'autres termes, au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun acte de justice concret et légal qui nous donne tort dans l'affaire. Au surplus, nous sommes dans un pays où les libertés reconnaissent à toute association le droit de se réunir. En d'autres termes, même si nous n'étions pas FPI, si nous n'étions pas en conflit avec qui que ce soit, le droit de se réunir nous serait quand même reconnu par notre Constitution. Voici un pouvoir qui est dans les actes illégaux et donc qui agit comme il est venu, c'est-à-dire dans l'illégalité.
Kone Boubacar du FPI, il était joint en Côte d'Ivoire par Jean-Roger Bion.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Au micro, Camille Grosdidier, diverses ONG réunies au siège de la Fondation Kennedy ici à Washington ont lancé un appel en faveur du français Michel Thierry Atangana, relevant que les gouvernements camerounais et français tardent à mettre en œuvre les recommandations des Nations Unies le concernant. Monsieur Atangana a été emprisonné pendant 17 ans au Cameroun sous accusation de détournement de fonds publics, ce qui avait amené le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire à se saisir de son cas. Timothée Donangmaï s'est entretenu avec Michel Thierry Atangana. On les écoute.
La première recommandation, c'est la libération immédiate. Or, j'ai été libéré sur la base d'une remise de peine qui n'a rien à voir avec le caractère de la détention arbitraire reconnue par les Nations Unies. Deuxième recommandation, c'est l'enquête qui est ordonnée pour punir tout le circuit des hommes et des femmes qui ont participé à cette violence faite à l'être humain. Et enfin, la troisième recommandation des Nations Unies concerne la réparation de tous les préjudices. C'est au pluriel.
On a également les cas de nombreux anciens hauts responsables camerounais qui sont actuellement en prison. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose à ce sujet?
Il y a eu cette tendance à produire une instrumentalisation de la justice, disant qu'on lutte contre la corruption officiellement, alors que selon les médias camerounais qui ont écrit pendant ma détention et après, on a l'impression d'une certaine épuration politique à travers les instruments de justice.
À quelle fin ?
La lutte politique en Afrique obsède toutes les consciences. Et je pense qu'aujourd'hui, chacun observe la durée d'un régime avec l'intention d'espérer être le prochain détenteur du pouvoir. Et les uns les autres se tuent et tuent l'Afrique en menant des combats insipides, violents, pour la quête du pouvoir.
Dans votre cas, vous en voulez aussi à votre pays, la France, de vous avoir un peu abandonné dans cette situation-là.
En vouloir, non, peut-être pas, c'est l'expression que je n'utiliserai pas. Moi, je dis ceci, je conteste l'attitude qui consiste à laisser son citoyen enfermé pendant 17 années et marrer ses appels et ne rien dire. Donc, il a fallu beaucoup de temps et je dois saluer l'action des Américains. Il ne faut pas l'oublier que c'est l'ambassade américaine à Yaoundé qui attire l'attention de ma propre ambassade sur ma situation à la 13e année de ma détention. Et si vous regardez bien, toutes les publications du département d'État depuis 2005 retiennent mon dossier comme un cas de détention politique.
Voilà, c'était Michel Thierry Atangana dans un entretien ici à Washington.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
Salut les amis, Roger Moumtou, La Voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mardi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
Yeah. Ici Washington, la voix de l'Amérique, ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde de ce programme était assurée par Michel Joseph. Au micro, Camille Grosdidier qui vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur Facebook et bien sûr sur notre site internet voaafrique.com. Voilà, c'est tout pour ce programme et maintenant nous vous souhaitons toute l'équipe une très bonne journée.
Au cœur de l'info.